Bonsoir, vous écoutez Radio Panique sur 105.4 FM. On est lundi, le 15 mai 2023. C'est comme une émission de la rédaction. Il y a Hélène avec nous. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Arthur.
Et il y a notre invité, Tariq. Tariq, si ça dit, bonsoir.
Bonsoir Arthur, bonsoir Hélène.
Et donc Tariq, tu es étudiant en Master 2 en journalisme de l'ULB.
C'est bien
Et
ça.
c'est ça. Hein. Et tu es ici ce soir parce que tu as réalisé un documentaire dans le cadre de tes études. Un documentaire qu'on va écouter tout de suite, enfin presque tout de suite, parce que je me rends compte que je ne l'ai pas mis au bon endroit. Mais je vais prendre quelques secondes pour faire ça. Peut-être nous expliquer le contexte général de la commande, entre guillemets, le temps que je cherche le fichier.
Oui, bien sûr. Ben en fait, pour le Master 2 en journalisme, on devait choisir la radio. Pour moi, en tout cas, j'ai choisi la radio comme média. On pouvait choisir entre télé, radio, photo, etc. Et j'ai choisi la radio parce que c'est un média qui me plaît. J'aime bien un peu cet esprit radio libre, etc. Et donc, j'ai créé, enfin, on devait amener un podcast qui devait durer aux alentours de 20-30 minutes. Et donc voilà, c'est un podcast qui parlera d'intelligence artificielle, des peurs qu'on pourrait s'en faire, et notamment dans le domaine de la santé, en quoi ça pose problème éthiquement, etc.
Et donc, il s'appelle Diagnostic avec un jeu de mots qui n'est pas très radiophonique, mais en tout cas, à l'écrit, ça donne Diagnostic avec le I et le A en majuscule pour intelligence artificielle. Donc, ça dure 29 minutes et 5 secondes. Donc, on écoute et puis on revient après pour discuter de ce documentaire. C'est parti.
OpenAI, c'est l'entreprise dont absolument toute la planète tech parle en ce moment.
Le sujet dont tout le monde parle actuellement, ChatGPT.
Il y a énormément de domaines où les performances des programmes d'intelligence artificielle sont supérieures à ceux des hommes.
Celles dont on parle aujourd'hui, ce sont les intelligences artificielles dites génératives, c'est-à-dire qui génèrent du contenu.
En dehors du droit du travail, en dehors de la fiscalité, en dehors du respect du droit sur les données, qui sont quand même le cœur de tout ça.
D'ailleurs, il y en a qui sont capables de nous sauver la vie via des intelligences artificielles liées au médical, etc.
Voilà plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on nous promet des changements majeurs dans nos vies.
On commence par Microsoft qui confirme un investissement colossal dans l'intelligence artificielle.
ChatGPT, 7 lettres, est peut-être l'aube d'une révolution.
Grâce à l'IA, il y a 26 ans, la victoire pour la première fois d'un ordinateur. Deep Blue face à un champion d'échecs, Garry Kasparov, était une étape symbolique.
Grâce à l'intelligence artificielle, on peut produire des images très très bizarres en un temps record.
Il est vraiment urgent de mettre de l'éthique dans tout ça.
Car l'intelligence artificielle aide déjà aujourd'hui nos médecins à soigner.
Alors, ça vous fait peur, l'intelligence artificielle?
L'intelligence artificielle, ces termes créés dans les années 50, sont plus ou moins connus de tous aujourd'hui. Dans le cinéma, la musique, la justice, la sécurité, la machine qui remplacera l'être humain est un fantasme qui ne date pas d'hier. Depuis Alan Turing, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique, jusqu'au fameux ChatGPT, les innovations semblent de plus en plus rattraper notre imaginaire. Mais ces innovations qui permettent d'aider les êtres humains nourrissent aussi certaines craintes. Un mot existe, la technophobie. Une IA qui remplacerait les êtres humains, la vision fait frissonner. Par contre, il y a un domaine dans lequel les innovations semblent être plus épargnées par le feu des critiques, c'est celui de la santé. Et pourtant, c'est un domaine où l'IA est déjà très présente. Alors est-ce que quand c'est pour vous soigner, vous y allez les yeux fermés? Aujourd'hui, les algorithmes se sont glissés dans plein de domaines. On va en explorer les concepts et les technologies mises en œuvre, mais aussi les doutes et les fantasmes qui se cachent derrière ces programmes informatiques qui peuvent nous sauver la vie comme la détruire. Bienvenue dans Diagnostic. Contrairement aux idées reçues, l'idée de rendre une machine intelligente date de milliers d'années. on pouvait déjà observer des représentations de robots combattants dans des illustrations provenant de la Grèce antique. Plus proche de nous, c'est le cinéma qui s'est immiscé dans notre imaginaire en représentant des robots intelligents dès les années 20, avec des films muets comme Metropolis, dont on entend la bande originale. Ce fut l'un des premiers films de science-fiction à mettre en scène des robots dotés d'un libre arbitre. Plus tard, Le Magicien d'Oz, 2001, L'Odyssée de l'espace ou encore Star Wars finiront par façonner notre vision des machines, comme le film Les Dents de la Mer a su le faire pour les requins. Mais le terme intelligence artificielle, lui, ne vient pas du 7e art. Allons poser nos questions à une spécialiste.
Je m'appelle Laurence Eryx, j'ai été journaliste professionnelle pendant 15 ans avant d'entamer une nouvelle carrière académique. Mon doctorat portait sur l'automatisation de la production d'informations, soit les premières applications d'intelligence artificielle dans l'information. Je suis aussi développeuse, programmeuse, donc j'utilise aussi ces technologies de temps en temps, y compris dans la recherche, et je travaille actuellement à l'université de Bergen en Norvège, où ma recherche porte plus particulièrement sur les outils de fact-checking s'appuyant sur l'IA.
Alors tout d'abord, d'où vient ce nom ?
L'intelligence artificielle, c'est un terme qui est né dans les années 50, au tout début des développements de la discipline. Et c'est pas parce qu'on appelle ça intelligence qu'ils sont intelligents au sens cognitif humain, c'est-à-dire que les machines ne pensent pas, elles n'ont pas d'émotions, elles n'ont pas les réflexes que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, elles ne sont pas contentes, elles ne peuvent pas aimer, elles n'ont pas toute cette panoplie de sentiments qui peut parfois nous bouleverser.
Pas de sentiments, mais alors, le terme choisi ne serait-il pas quelque peu galvaudé ?
L'intelligence artificielle, c'est certainement un terme qui est utilisé de manière très commerciale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait vendre. Pourquoi on parle d'intelligence fondamentalement, c'est parce que ce sont des systèmes qui sont capables d'imiter l'humain dans ses prises de décision.
Mais alors si on est encore loin d'une intelligence capable de réfléchir comme un humain, qu'est-ce qu'on entend par intelligence artificielle ?
Alors ça fait référence à une foultitude de techniques et une foultitude d'algorithmes pour utiliser dans différents domaines et pour différentes tâches. C'est un peu un mot valise qui veut tout et qui veut rien dire à la fois. Alors, plus techniquement, on peut parler de machine learning, qui est l'apprentissage par la machine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec du machine learning ? Eh bien, on va essayer de faire des prédictions. Par exemple, compte tenu des données que j'ai des clients dans une banque, de savoir s'ils sont célibataires, avec des enfants, de savoir le revenu, s'ils sont propriétaires, locataires, s'ils ont déjà des emprunts pour une voiture, pour une maison, etc. Compte tenu de toutes ces informations, le système va me dire est-ce que si cette personne va être solvable et si je peux lui accorder un prêt.
Et ça, ça existe déjà. Mais j'ai comme l'impression que l'IA divise énormément.
Alors, on peut voir ça, on peut voir le verre à moitié plein, hein, en se disant que ce sont d'un côté des formidables assistants, des outils vraiment qui aident à gagner un temps précieux, qui permettent aussi de détecter des patterns dans des volumes de données gigantesques. Et humainement, on pourrait le faire, mais ça prendrait des années. Et c'est la puissance de calcul des ordinateurs aussi qui permet ces évolutions. On n'a jamais eu des machines aussi puissantes aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans, parce que ces technologies, enfin ces techniques sont étudiées et sont développées depuis vraiment des années. C'est ce qui rend ces développements beaucoup plus rapides, on va dire, aujourd'hui. Mais si on regarde le verre à moitié vide, il y a toujours eu l'angoisse, comme à chaque révolution industrielle, que l'automatisation, tout ce qui est automatisé, remplace l'être humain dans certaines tâches. Et c'est vrai que ça s'est produit, si on se rappelle du taylorisme et du fordisme, des usines à la chaîne, où on a automatisé les chaînes de production. Mais il faut se dire que, en même temps, ça transforme le travail. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours un humain quelque part dans la chaîne. Il faut aussi se dire qu'il y a toujours un humain derrière qui va concevoir le système, qui va développer le système, qui va maintenir le système. Et toujours un humain qui va contrôler aussi le résultat du système. Et c'est très important dans certains domaines. En journalisme, par exemple, on ne peut pas imaginer qu'un journaliste humain ne contrôle pas, ne vérifie pas ce qui se passe derrière. Je pense que dans le domaine médical, c'est pareil. Quand on pose un diagnostic, quand un diagnostic automatisé, il faut au moins une vérification humaine.
Mais alors, que dire des pertes d'emploi ?
Alors, il y a eu effectivement des pertes d'emploi et on ne peut pas le cacher. La grande angoisse de cette quatrième révolution industrielle, c'est que ce ne sont plus seulement les ouvriers, les travailleurs en col bleu qui sont ciblés, mais aussi les intellectuels, les travailleurs en col blanc. Il y a des discours technocentristes qui sont parfois aussi très effrayants. Non seulement on va tout sauver grâce à la technologie, mais on va créer des super IA qui vont tout faire. Qui vont tout faire et l'humain n'aura plus rien à faire. Alors quand on pose la question à ces gens, mais qu'est-ce qu'ils feront, qu'est-ce qui va leur rester aux humains, ils disent, mais c'est bien, ils auront le temps pour faire du théâtre, pour danser, pour chanter, pour se reposer, pour voyager. Sauf que dans un système capitaliste, c'est pas comme ça que ça marche. Si j'ai pas d'argent, eh bien, je vais pas vivre de l'air du temps parce que je chante ou que je fais du théâtre. Et pour voyager, j'ai besoin aussi d'argent, même si je fais du vélo et que j'essaye de faire du survivalisme. Donc il y a quand même des discours qui ne tiennent pas compte en fait des défis sociaux qui se trouvent derrière. Et donc c'est aussi ça, cet univers des technologies numériques, c'est à la fois d'être un vecteur de monde qui serait radieux, meilleur, ou de monde qui serait pire. C'est le 1984 de George Orwell. Et à certains niveaux, on pourrait imaginer qu'on y est. Il y a d'extrêmes sources d'inquiétude, par exemple, face à toutes les technologies de surveillance.
Évidemment, ça ne va pas rassurer les plus frileux d'entre nous. Regardez Black Mirror, si ce n'est pas déjà fait. L'automatisation de tâches fastidieuses poursuit son chemin depuis la première ère industrielle. C'est aussi depuis ce moment que l'être humain a commencé à craindre qu'on leur pique leur job. Dans un certain sens, l'histoire leur a donné raison. Concernant l'IA, elle répond malgré tout à des enjeux importants et dans différents domaines. Pourtant, dans l'imaginaire de certaines personnes, l'IA est loin d'être la révolution tant attendue. Il y a quatre craintes majeures. Tout d'abord, celle de l'éthique. Que fait-on de nos données privées ? On continue à les partager, même si elles sont sensibles, comme nos données de santé ? Pas sûr que ça vous plaise. Il y a aussi la crainte d'une déshumanisation de notre société où tout serait remplacé par des robots. Plus de guichets de banque, plus d'humains qui répondraient au téléphone. Ça vous dit quelque chose ? C'est normal. Enfin, celle qui vient du cinéma. L'apparition des robots humanoïdes qui finiraient par se retourner contre ses créateurs afin d'exterminer la race humaine. Je vous rassure, cette fin imaginaire apocalyptique ne risque pas d'arriver. Justement, je suis allé sur un site qui propose de générer des musiques grâce à une intelligence artificielle. Je vous laisse écouter. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'y est pas encore. Ce qui est sûr, c'est que certaines peurs ne viennent pas de nulle part. Les craintes sont donc parfois légitimes et parfois pas. Mais il est bon de rappeler que les machines ne sont pas capables de penser par elles-mêmes et devront toujours être supervisées par un être humain. Pour la crainte du chômage de masse, il y a eu des transformations dans le monde du travail, c'est vrai. Et si certains métiers sont voués à disparaître, d'autres se créent pour répondre aux besoins actuels. Concernant la déshumanisation de la société, rassurez-vous, l'être humain est et restera par nature un être sociable. Et ça, guichet fermé ou pas, ça ne changera pas. Enfin, concernant l'éthique, c'est le point le plus important. Beaucoup de choses restent à faire, même si des lois sont en vigueur pour vous protéger numériquement. C'est ce qu'on va voir avec la deuxième spécialiste. Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données, a posé les bases d'une législation commune concernant vos données personnelles. Adopté en 2016 par le Parlement européen et le Conseil, il permet d'avoir un cadre harmonisé de l'ensemble des règles relatives à la protection des données et est directement applicable par tous les États membres de l'Union européenne. Et il fallait bien ça, parce que vous le savez, Internet n'a pas de frontières et vos données peuvent voyager très vite et très loin en un claquement de doigts. C'est pourquoi ce règlement repose sur des principes clés, comme l'obligation d'une entreprise à notifier une fuite de données ou encore à responsabiliser les entreprises qui peuvent être soumises à d'importantes sanctions financières. Vos données, ce sont aussi celles que vous transmettez à votre médecin ou à l'hôpital. Là, on parle de données sensibles qui ne peuvent pas arriver dans les disques durs d'une entreprise privée comme cela peut se faire aux États-Unis, par exemple. En Europe, des chercheuses et chercheurs s'appliquent à vous protéger numériquement.
My name is Sophie Mesaros and I work at IMEC Smith VUB.
Je m'appelle Sophie Mesaros et je travaille à l'IMEC Smith VUB. Études en médias, innovation et technologie liées au Centre interuniversitaire de microélectronique, ou IMEC en abrégé. C'est un centre de recherche et de développement.
IMEC is a research and development facility.
Dans mon groupe, nous sommes des spécialistes des sciences sociales qui travaillons à rendre la technologie à l'épreuve de la société. Nous avons différentes unités qui se concentrent sur différents aspects, comme la santé numérique, l'inclusion numérique, l'innovation dans les médias, etc. Je fais partie de l'unité santé numérique et travail. Notre problématique ici revient à respecter les individus et à ne pas les exploiter à des fins commerciales, ce qui serait le cas de grandes entreprises comme Google ou Apple disposaient de nos données de santé.
It's true that they have a big outreach and therefore they may be more efficient in terms of processing data.
Alors d'un côté, ils ont une grande portée et donc ils peuvent être plus efficaces, mais leur but est de faire de l'argent et non de sauvegarder les valeurs européennes comme la vie privée. Je travaille sur des pratiques de partage de données dignes de confiance et l'une des priorités est l'utilisateur final et non le profit. Comme je l'ai dit, l'objectif de ces entreprises est commercial et non éthique. Elles ne sont donc pas dignes de confiance pour les hôpitaux.
Donc si je comprends bien, votre but est de sécuriser les données afin qu'elles puissent être utilisées par des ingénieurs qui pourront, grâce à elles, créer des IA dans le domaine de la santé. Le tout sécurisé. Mais comment arriver à un tel résultat ?
So we need accountability, traceability, transparency and efficiency in terms of who accesses the data, when and for what purpose.
Ce qu'il y a, c'est que nous avons besoin de responsabilité, de traçabilité, de transparence et d'efficacité pour savoir qui accède aux données, quand et dans quel but. C'est ce à quoi nous travaillons dans le cadre de mes recherches. Nous nous concentrons sur la confiance dans le partage des données, dans des espaces virtuels de données dans le monde de la santé. Les espaces de données offriraient la possibilité de partager des données en toute sécurité. Actuellement, les hôpitaux sont confrontés à des problèmes de confiance lors du partage de données. Les risques sont très divers, mais au final, tout se résume à ne pas faire confiance au partage de données pour des raisons juridiques, économiques et techniques. La priorité est de protéger la vie privée des individus et que celle-ci ne soit pas exploitée commercialement. Des idées déjà introduites par le RGPD. Actuellement, nous pouvons utiliser des accords de partage de données, mais ces accords sont administrativement lourds. De plus, vous ne pouvez ni superviser leur utilisation, ni savoir à quelle fin ils seront utilisés. Nous devons donc créer des processus qui empêcheraient l'utilisation abusive de ces données et en même temps éviteraient de passer à côté d'opportunités d'utilisation des données. Et il serait très dangereux que cela soit fait par des entreprises privées, car leur priorité n'est pas d'être éthique. En Belgique, c'est d'autant plus important que le secteur de la santé est très fragmenté. C'est un véritable défi pour la recherche.
Je vous avoue, c'est plutôt rassurant de savoir que des scientifiques travaillent sur le sujet sans penser au profit. Mais les lois et les banques de données sécurisées ne permettront pas aux gens de comprendre l'inconnu. Car c'est bien ça qui fait peur, l'inconnu. Pour cela, il est nécessaire d'avoir des bases en éducation numérique. Mais avant de passer à la dernière partie, je me dois d'être franc avec vous. Je vous ai un peu menti concernant la musique. En fait, j'ai trouvé d'autres musiques générées par une intelligence artificielle, mais cette fois-ci, ce n'était pas moi aux manettes. Alors voilà ce que ça donne quand Benoît Carré, alias Skige, crée de la musique grâce à l'IA.
Something that makes me feel alive, like for the first time. Something that suddenly will open my eyes wide. But everything happens in an ordinary world. It's always here and now.
Quand même plus plaisant, n'est-ce pas? Allez, il est temps de passer au dernier chapitre. Dans une étude Ipsos de 2019, commandée par le service public fédéral et réalisée par AA for Belgium, des chercheurs ont interrogé un échantillon de personnes sur la perception qu'ils ont concernant l'intelligence artificielle. Le SPF Économie voulait répondre à plusieurs questions de recherche concernant les connaissances des Belges sur l'IA, l'impact sur la vie quotidienne et sur le travail, mais aussi le rôle que doit avoir le gouvernement concernant l'implémentation de l'IA en Belgique. Si les profils sont assez hétérogènes, le constat, lui, est quelque peu ambivalent. À la question « L'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer notre société », seuls 12% des Belges ne sont pas du tout d'accord. L'IA est donc perçue comme un développement positif et pourrait entraîner des améliorations. Par contre, quand il s'agit des conséquences que l'IA pourrait avoir sur notre vie, 85% des Belges sont inquiets, et plus particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des données personnelles et l'utilisation du bon sens humain. Suite à ce constat, je suis allé poser mes questions à Giovanni Briganti. Il est psychiatre et professeur et a dirigé la partie soins de santé de l'étude.
Si on retrace un petit peu l'histoire, en 2020, le futur Premier ministre Alexander De Croo, à l'époque, il avait d'autres charges, crée un écosystème fédéral pour l'intelligence artificielle appelé AI for Belgium. Dans cet écosystème, dans lequel interviennent des citoyens, des académiques, des politiques, des décideurs, donc des industriels et d'autres catégories de la société civile, en fait, le but était de rassembler les efforts pour mieux avancer en matière d'intelligence artificielle. Un des groupes de travail qu'on m'a demandé de diriger s'appelait et s'appelle toujours AI for Health, dans lequel on tacle en fait les besoins spécifiques de l'IA en santé.
Et donc suite à cela, vous avez ouvert une certification spécifique à l'intelligence artificielle en médecine, c'est bien ça?
Donc c'est un certificat que nous avons lancé avec l'Université de Mons et l'Université libre de Bruxelles, où Karim Zouaoui Boudjeltia et moi-même sommes tous les deux académiques à la fois en faculté de médecine à l'ULB et à l'UMons, pour répondre à un besoin qui est actuel et qui est celui de l'éducation à l'intelligence artificielle et la médecine digitale, qui sont des domaines qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le domaine des soins de santé.
Il y a donc une demande d'éducation, mais quelles sont les applications de l'IA dans le domaine?
Alors, en général, l'intelligence artificielle, elle aide dans plusieurs secteurs des soins de santé. J'aime bien diviser les applications de l'IA en deux domaines, deux macro-domaines. Le domaine à la fois clinique et un domaine paraclinique. Alors, j'ai défini le domaine clinique comme un domaine où l'IA va venir intervenir dans le secteur de soins de santé entre les soins qui sont prodigués par le médecin au patient. Donc ça, c'est un premier objectif. Et puis, les soins paracliniques, c'est quoi? C'est en fait l'utilisation de l'IA dans des secteurs où il n'y a pas d'acte de soins, mais où il y a un besoin d'automatisation qui vient soutenir le professionnel de la santé. Par exemple, l'administratif. Pour revenir aux exemples d'intelligence artificielle clinique, on peut utiliser ces technologies pour notamment pour prédire, voire prévenir les maladies. On parle de prédiction lorsqu'il s'agit de prédire un événement quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours avant que cela se passe, et de prévention lorsqu'on parle de programmes personnalisés qui préviennent les maladies les plus populaires avant qu'elles puissent se présenter, donc notamment les maladies cardiovasculaires.
Pourtant, on ne peut toujours pas utiliser l'IA dans les soins de routine, c'est ça ?
Voilà, donc il faut se remettre dans le contexte qu'en Belgique, utiliser l'IA pour des soins de routine n'est pas encore permis, ou en tout cas prévu par l'Ordre des médecins. Il est possible d'utiliser des intelligences artificielles dans le cadre de recherches cliniques. Et donc, on peut utiliser des logiciels de type IA uniquement s'il y a un projet de recherche clinique qui vient justifier son utilisation.
Pour en revenir à l'étude, comment expliquer que la population soit plutôt inquiète quant aux conséquences de l'IA ?
Alors, ceci est dû à plusieurs choses. Premièrement, dans la presse, nous retrouvons beaucoup trop d'échos négatifs qui sont dus à des vraies choses qui se passent réellement dans le domaine de l'intelligence artificielle et qu'on aimerait ne pas observer. Donc, ceci est dû que les systèmes d'intelligence artificielle sont développés tout de même dans un cadre qui reste celui du capitalisme et qui malheureusement est prédisposé à développer des dérives que l'on voudrait ne pas observer. Donc ça, c'est un premier aspect dont il faut tenir compte. Néanmoins, la population et les citoyens belges se rendent compte que l'IA est une évolution très positive dans la vie de la société. Et donc ceci permet que finalement les perceptions soient un petit peu ambivalentes par rapport à la population, où à la fois on remarque les choses incroyables que l'IA peut faire et à la fois on a une crainte de l'utilisation à mauvais escient des données au dépit de la privacité, de la sécurité des données personnelles.
Mais donc la crainte des Belges est légitime concernant nos données. Mais quels sont les bénéfices à l'utilisation de l'IA ? En gros, qu'est-ce que ça nous apporte ?
Pour la santé, il faut se rendre compte qu'il s'agit tout de même d'un domaine qu'on appelle à haut risque pour l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que les données sont assez sensibles. Cependant, les bénéfices que l'IA peut amener en santé sont tellement multiples qu'effectivement, c'est un domaine où l'utilisation des algorithmes se fait à bon escient. Dans cela, je veux mettre en évidence cinq piliers de ces effets positifs. Le premier, c'est qu'on peut quand même améliorer la qualité des soins qu'on offre aux patients, donc, et rendre donc, les citoyens en meilleure santé. Deuxièmement, on peut améliorer la performance des professionnels de la santé et en même temps améliorer leur qualité de vie au travail, ce qui va permettre de réduire notamment les burn-out du personnel soignant et permettre de garder une certaine compétitivité, une certaine force de travail médical et paramédical. Troisièmement, on peut quand même aider les institutions hospitalières et les institutions de soins en sens large, maisons de repos, cabinets de médecine générale, etc., afin qu'ils puissent mieux performer. Quatrièmement, on peut quand même utiliser l'IA pour améliorer la recherche clinique et formuler de nouvelles hypothèses de recherche clinique, ou découvrir de nouveaux médicaments, ou mieux comprendre les maladies. Donc ceci n'est pas donné et ça représente un très très gros avantage. Et dernièrement, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir les politiques publiques dans des cadres notamment de pandémie ou d'autres événements de santé publique. Donc ceci, c'est clairement le cas avec l'IA. Computer programs have evolved to such a high
level, you can no longer call them programs. Finalement, la peur de l'intelligence artificielle est compréhensible, surtout quand cela touche notre santé. On parle quand même de perte d'emploi et de vie privée, tout en sachant que nous ne sommes qu'aux prémices d'une ère robotisée. Surtout que si vous ne prenez pas le train en marche, vous risquez vite d'être largué, de ne plus rien comprendre et ainsi de suite. La spirale de la peur de l'inconnu reprend. D'un autre côté, les possibilités, les défis de notre civilisation sont tels qu'il semble difficile de se passer d'une telle opportunité. Quand on sait que le cancer pourrait devenir la première cause de décès en 2030 et que les IA améliorent la précision des diagnostics, des traitements et réduisent les erreurs médicales, pourquoi faire la fine bouche ? Nous sommes seulement à l'heure de la réflexion dans le domaine, et si l'on veut éviter la dystopie promise, la connaissance en est la clé. Merci d'avoir écouté Diagnostic. Merci à Laurence Dirix, Sophie Messaros et Giovanni Briganti de m'avoir accordé du temps. Merci à Leslie Doumerc pour ses précieux conseils et Philippe Delchambre pour sa patience.
Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM ou en streaming www.radiopanique.org. On est lundi le 15 mai 2023, il est 19h30 et on est en compagnie de Tariq Sissadi, donc le réalisateur de ce documentaire diagnostique réalisé dans le cadre de ses études en journalisme en Master 2 à l'ULB. Il y a Hélène autour de la table de la rédaction et donc on a une demi-heure pour discuter avec toi Tariq de ce documentaire. Donc Hélène, c'est à toi.
Oui, on voudrait d'abord te demander pourquoi tu as choisi ce sujet, l'intelligence artificielle, et pourquoi le domaine de la santé, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce sujet?
Le domaine de la santé, c'était un peu le thème général de cette année de mémoire. Mais concernant l'intelligence artificielle en elle-même, moi, c'était toujours un sujet, vraiment un domaine qui m'a toujours attiré, je ne sais pas. C'est toutes les innovations que l'être humain peut se faire pour se faciliter la vie. Ça m'a toujours... Je trouve ça fou, quoi. Et autant je suis quelqu'un qui adore la nature et qui n'est pas vraiment un gars de la ville à la base, autant toutes les innovations et tout, je sais pas, il y a un truc dans la création humaine jusqu'où elle peut aller et comment on nous rend la vie facile ou plus facile. Enfin, ça c'est ce qu'ils nous disent, hein. Après c'est l'utilisation qu'on en fait, mais voilà, toutes les innovations, les techniques, les nouvelles techniques, les nouvelles technologies, ça m'a toujours attiré.
Et alors, comment tu t'y es pris pour réaliser le documentaire? Est-ce que tu as rencontré des difficultés au niveau technique ou pour contacter des personnes à interviewer? Comment ça s'est passé?
Oh, alors, je pense qu'un documentaire sans problème, ça n'existe pas, vraiment. Oui, évidemment, il y a des rendez-vous annulés, il y a des experts que je n'ai pas pu avoir, il y a toute une dimension... plus humaine dans le reportage que j'ai pas pu exploiter parce que j'avais pas je savais pas si prendre une personne qui avait été confrontée à une intelligence artificielle, c'est très dur à trouver en Belgique. On a peu d'exemples de gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle comme surtout conversationnelle, comme un peu compagnon de vie, etc. donc j'ai eu du mal à humaniser, c'est un peu trop expertisé pour moi, mais voilà, j'ai des problèmes, il y en a eu plein, hein, techniques aussi, hein, on a utilisé plein de logiciels, on a utilisé plein de... on devait switcher de PC en PC, parfois ça marche pas la technique, le mixage c'est pas mon fort, donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, mais au final, voilà, ça sort.
Et est-ce que tu as eu des difficultés à réaliser un documentaire sans images, rien qu'avec du son? À part le fait qu'il n'y a pas de caméra, en quoi c'est différent de faire un documentaire radiophonique?
Mais la radio, c'est un... Après, moi, mon sujet, ça a été assez facile parce qu'on ne peut pas vraiment le voir, à part voir des petits chiffres à la Matrix 1 et 0, binaire, ou des algorithmes pour... c'est pas vraiment imagé, quoi. Donc ça m'a aidé. Mais il y a une vraie différence entre créer du son en lien avec l'image et le sujet pour lequel on le fait, et d'un autre côté, créer juste un son, comme on en parlait juste avant, d'ailleurs, entre nous. Voilà, quand on crée juste pour le son, on se concentre beaucoup plus sur la voix, sur l'émotion que ça peut créer, et l'image... Qu'on puisse en faire dans sa tête et pas devant les yeux, en fait. Donc il y a une vraie différence là-dedans.
D'ailleurs, juste pour poursuivre sur ce sujet-là, il y a un travail sur la forme, c'est-à-dire la voix off, entre autres, qui est quand même qui est assez présente dans ton documentaire. Comment justement, toi, tu l'as abordé? C'est pas forcément évident d'écrire une voix off, quel ton prendre. Tu joues aussi avec... l'auditeur, l'auditrice, d'une certaine manière, puisque tu l'interpelles, comment ça a été pensé?
Alors oui, j'essaye en tout cas, mais c'est vrai que j'ai essayé d'avoir un ton un peu plus angoissant. J'ai pas envie de dire angoissant, c'est peut-être un mot un peu fort, mais un ton un peu plus solennel comme ça dans la manière de le faire, parce qu'on parle de peur d'un domaine qu'on connaît pas. Et donc, j'ai voulu prendre une voix un peu plus lente comme ça. Et donc, la voix est très importante, justement, dans ce passage d'émotion. Après, voilà, tout n'est pas parfait. Moi, quand je m'écoute, j'ai l'impression que tout est à refaire. Donc, il vaut mieux pas me lancer là-dedans.
Et écrire une voix off, enfin, du coup, l'interpréter aussi, comment tu l'as vécu?
Alors, quand tu l'écris, t'écris des belles grandes phrases. Quand tu prononces ces phrases pour la première fois, tu te dis, en fait, ça va pas du tout. Et donc, tu dois vraiment raccourcir tes phrases, faire des mots beaucoup plus simples, arrêter, enfin, les mots à plus de 3 syllabes, c'est compliqué à la radio. Enfin, il y a tout un truc, tout plein de trucs et astuces qu'on nous apprend et dont justement Leslie Doumerc a été de précieux conseils pour ça. Mais voilà, tu commences à écrire et puis tu t'enregistres une première fois et tu te dis c'est pas assez en lien, enfin, les gens vont pas comprendre, la phrase est trop longue, j'arrive pas à respirer sur cette phrase. Et donc tu la réécris plus simplement, plus court. Et voilà, il y a tout un processus d'écriture. Moi, mon processus, c'est d'écrire une petite partie, l'enregistrer, écouter, voir, là, ça pourrait changer. Et puis, je réécris, je me réenregistre, je réécoute, et voilà.
Des allers-retours, comme voilà. Ça.
Alors qu'il y en a qui arrivent à faire en one-shot, écriture, boum, je lance. Hein.
Est-ce que tu as eu un cours pour apprendre à parler en voix off, à écrire le texte de la voix off, apprendre la manière, le ton,
alors, y a un ton cours,
adopté, la manière de parler?
Il y a des conseils qui sont donnés, pas vraiment des cours. Il y a plus des conseils qui sont donnés, mais en tout cas, on a beaucoup de cours sur l'écriture, donc comment écrire, et des conseils qui sont donnés pour les adapter à l'univers radio, quoi, et l'univers audio. Ça, c'est ce qui est différent de la télé ou bien du papier, surtout. Parce que papier, on peut faire des grandes phrases, on va voir les virgules qu'on n'entendra pas forcément à la radio. Enfin, c'est une écriture différente, mais je ne peux pas parler de cours vraiment là-dessus. Non.
Okay. on a aussi des questions sur le sujet lui-même.
Oui, avant peut-être juste pour poursuivre, j'avais une autre question sur justement ce rapport au son sans image. Du coup, bon, on a parlé de la voix off, mais il y a aussi l'apport de la musique dans ton documentaire. Bon, une partie qui est très mise en avant et expliquée, qui est cette musique créée par l'IA, mais aussi, enfin, ça, tu c'est pas forcément dit, mais il y a toutes ces nappes et autres qui sont présentes dans ton documentaire.
Oui, c'est vrai que c'est pas précisé, mais à part la musique d'introduction, toutes les musiques ont été générées en partie ou totalement par une IA. Il y en a qui sont liées avec un artiste. J'ai plus le nom de l'artiste, malheureusement, j'aurais dû préparer ça. Mais voilà, un artiste qui cède l'IA, je crois que c'était au milieu du reportage, qui cède l'IA pour pouvoir générer une vraie belle musique d'ambiance. Et les IA commencent à performer incroyablement bien dans ce domaine-là. Et c'est aussi pourquoi on en a peur de plus en plus. Peut-être qu'on va en revenir, mais...
On a aussi des questions sur le sujet lui-même, sur l'intelligence artificielle. Donc, pour un peu introduire le sujet, on sait qu'il y a ChatGPT qui génère du texte, du contenu, et Midjourney qui génère des images. Est-ce que tu sais s'il y en a d'autres, des intelligences artificielles, ou pas?
Ah ben, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg qui est montrée dans ces IA, parce que je pense qu'il y en a des centaines et des centaines tous les jours qui sont nouvelles, qui nous apprennent maintenant à faire des vidéos, à faire de la photo, à faire des paysages, à faire du texte. Là, on parle de ChatGPT beaucoup parce que c'est médiatisé. D'ailleurs, il y a une belle allégorie qui disait qu'en français, GPT, ça ressemblait fort à Gepetto, qui a créé justement Pinocchio, et du coup ça fait un peu le créateur d'un monstre, ou pas, mais d'un truc un peu surhumain. Mais oui, des intelligences artificielles, il y en a des tonnes et des tonnes dans tous les domaines, que ce soit artistique, littéraire, et c'est bien pour ça qu'on en a peur, parce que parce que voilà, ça pourrait largement remplacer, et ça le fait déjà, des métiers comme les nôtres, comme journaliste ou plein d'autres, des écrivains. Il y a des livres qui sont sortis complètement générés par des intelligences artificielles. Après, pour ce qui est de ChatGPT, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Et voilà, c'est juste que celui-là a été grandement médiatisé. Mais voilà, il y en a plein d'autres, quoi.
Et justement, toi qui te destines au journalisme, est-ce que tu as peur que l'intelligence artificielle remplace ton métier ?
Alors, moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Bah, dès le début, j'ai essayé de comprendre, et je pense que voilà, c'est un peu la conclusion de mon reportage, c'est que quand tu comprends comment ça fonctionne et quand tu sais que tu es obligé d'avoir un être humain derrière, sinon il n'y a rien, t'en as pas peur. Après, comme c'est encore dit, mais voilà, c'est l'utilisation qu'en fait des sociétés capitalistes qui vont utiliser cet outil à des fins pécuniaires. Et du coup, il peut y avoir des sociétés qui vont remplacer tous les journalistes dans une société et écrire uniquement par une IA. Sauf que j'ai l'impression que si ça se fait, on va quand même voir largement la différence entre la patte d'un écrivain ou d'un auteur d'un article que d'une intelligence artificielle. En tout cas, pour l'instant, peut-être qu'on va avoir des intelligences artificielles plus tard qui vont nous donner des résultats incroyables au niveau journalistique. Mais pour l'instant, j'en ai pas peur. À voir comment ça évolue.
Mais pour l'instant aussi, il faut un humain, comme tu l'as dit, il faut un humain qui relise et qui vérifie derrière. Mais c'est quand même une intelligence artificielle qui crée le contenu. Et donc, si être journaliste, c'est un métier passion, ça veut dire qu'on n'exerce plus vraiment son métier passion. Donc, elle remplace un peu.
C'est aussi lié à la manière de faire du journalisme. Il y a le journaliste qui va se concentrer sur les faits et qui va uniquement détailler en fait comme le ferait ChatGPT avec une liste. Voilà, il y a eu ça, 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 ça. Après, il y a une patte aussi. Et puis, il y a différents styles journalistiques, que ce soit dans l'écriture ou dans la création d'un podcast. Je ne suis pas sûr qu'une intelligence artificielle puisse faire un podcast ou écrire un texte aussi bien que des journalistes de fond qui vont écrire des longs articles où il y a vraiment de la recherche. Je ne sais pas.
Par exemple, je viens de trouver une manière de poser une question à ChatGPT, je crois. Et j'ai demandé quelle question poser à un étudiant en journalisme sur l'intelligence artificielle. Donc là, c'est très bizarre parce qu'il met une série de questions, il commence par 6 jusqu'à 10, après 1 à 5, puis il me remet... Bref, là, il y a 20 questions. Du coup, j'ai envie de t'en poser une au hasard. Comment les journalistes peuvent-ils s'adapter à l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans leur travail ?
Eh ben justement, je pense qu'on pourrait s'aider de l'intelligence artificielle dans... je sais pas en fait. Hein. Dans mon travail, je l'utiliserai jamais. C'est-à-dire que je sais que c'est pas sourcé quand on utilise ChatGPT. Donc tout ce qu'il va nous donner comme fait... il faut à chaque fois s'assurer que ce soit vrai. Donc finalement, c'est un peu faire le double du travail que de devoir aller sur ChatGPT, lui dire, voilà, il y a ça, 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 écris-moi un article. Eh ben, dans l'article qu'il va écrire, vu que c'est du traitement automatique de langage, lui, ce qu'il va faire, c'est prendre un mot et il y a des probabilités de savoir si le mot d'après ou celui d'avant va être plus ou moins utile dans sa phrase. Et donc, ça va générer un nombre d'erreurs incroyable. Et donc, si on doit écrire un article et que l'IA le fait, écrit l'article à notre place, et que nous, on doit vérifier chaque phrase pour savoir si c'est vrai, si c'est ou d'où c'est sourcé, etc., c'est beaucoup trop compliqué. Donc les vieilles méthodes sont parfois les meilleures.
Et dans ton documentaire, tu abordes le domaine artistique. Donc, le journaliste, on peut dire que c'est un métier créatif. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique ? Donc, par exemple, Midjourney qui génère des images. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les métiers créatifs comme illustrateur, par exemple, pourraient disparaître, selon toi?
Je pense que ça existe déjà. Hein. Je pense qu'il y a déjà des métiers d'illustration. Des logiciels comme Midjourney sont très, très forts. Là, j'ai même vu qu'il y avait des problèmes de doigts à un moment. Donc, ils faisaient à chaque fois 6-7 doigts pour des images. Maintenant, ils ont réglé le problème. Maintenant, il n'y a plus que 5 doigts. Donc, ça devient de plus en plus. Mais de nouveau, hein, on n'est qu'aux prémices de tout ça. Mais je pense que pour faire passer une émotion, j'ai l'impression qu'on va le ressentir quand c'est une image générée par une IA ou par un être humain, même si l'IA fait des prouesses là-dedans. Je pense qu'il y a ce passage d'émotion qui va moins se faire quand c'est une IA qui l'aura générée, cette image. Je ne sais pas si Da Vinci aurait peint de la même manière ou que le... Mona Lisa serait la même si ça avait été généré par une intelligence artificielle. Mais voilà, quand on parle d'intelligence artificielle qui crée une image, il faut quand même se dire qu'il y a des êtres humains derrière qui ont nourri cette intelligence artificielle. Donc, même ce qu'elle nous propose sera lié à ce que l'être humain avant l'a nourri, quoi. Donc, c'est, même quand on parle de générer par une intelligence artificielle, il y a des êtres humains qui créent cette intelligence artificielle. Et donc, on n'est pas non plus sur des images 100% intelligence artificielle, quoi.
Mais l'humain pourrait...
C'est compréhensible, mais...
Oui, mais l'humain pourrait perdre le contrôle de l'intelligence artificielle, de ce qu'il crée, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en a peur.
C'est ce qui se dit, ouais. Je pense que, ouais, là, on est qu'aux prémices, et apparemment, en fait, ce qui fait surtout peur, c'est ce qu'on entend dans les médias. Il y a... le dernier intervenant dans mon reportage, qui dit justement que ce qu'on crée n'est pas forcément ce qu'on voit. Je sais plus exactement ce qu'il dit. Mais oui, voilà. C'est quoi la question? Je ne sais plus. Je me suis perdu dans mes pensées.
Non, c'est pas grave. Que l'humain risque de ne plus savoir contrôler l'intelligence artificielle et les robots qu'il crée.
Mais ça, c'est beaucoup... en fait, les films nous ont créé une espèce d'imagerie et d'imaginaire très compliqué à s'en défaire, du coup, de ces robots qui vont prendre le pas sur l'homme, etc. Mais on est très loin parce que justement, c'est l'homme qui crée ces IA. Donc voilà, je pense... Enfin, moi, j'en ai pas peur, mais c'est ce qu'on en voit dans les médias. C'est les problèmes, parce qu'il y a eu quand même un Belge qui s'est suicidé suite à avoir une conversation avec une IA où il était vraiment en conversation constante. Et lui, pardon pour le trigger warning, je l'ai pas fait, mais oui, on peut en avoir peur parce que parfois, ça nous pousse à faire des choses. Donc, il faut encore tourner le curseur et les paramètres pour que ce genre de choses n'arrive plus, quoi. Mais voilà, heureusement que c'est médiatisé, heureusement qu'ils mettent l'image dessus pour que, justement, ces créateurs d'IA puissent transformer et que ça aille dans le bon sens, quoi.
Tu as dit tout à l'heure qu'on est dans une société capitaliste. Et justement, on...
C'est pas moi qui le dis, hein.
Non, mais tout à l'heure,
oui, j'ai dit
les intervenants aussi.
On dit que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire autre chose que travailler, on va pouvoir s'adonner à d'autres activités, à des loisirs, mais on aura toujours besoin d'argent pour vivre. Et donc, est-ce que tu penses que c'est possible, ça, que l'humain ne travaille plus et que l'intelligence artificielle travaille à sa place? Comment on pourrait vivre? Déjà qu'on dit que le revenu universel est difficilement possible. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, difficilement possible, c'est l'action des politiques, ça. Hein. Ça ne me regarde pas. Mais je pense que c'est quand même totalement possible. Mais c'est vrai qu'on avait les mêmes craintes en fait, à l'ère industrielle, quand il y a eu le taylorisme et le fordisme, où on a remplacé ces gens qui travaillaient à la chaîne par des machines. Et c'est un peu la même grande révolution qu'on, qu'on voit arriver maintenant avec ChatGPT et les intelligences artificielles, pardon. Mais je pense que on va remplacer les métiers, mais il y a tout un tas d'autres métiers qui vont se créer. Après, le problème, c'est que souvent, on est en retard par rapport à ça. Et donc, même si on va pouvoir arrêter les tâches fastidieuses, comme on l'a fait, arrêter les tâches fastidieuses et pouvoir s'adonner à d'autres choses, on n'en est pas encore là du tout. Et si on y arrive, d'autres métiers se créeront. Après, de pouvoir chanter, danser, faire du théâtre et tout ça, je pense que ça appartient à beaucoup de monde. Et je pense qu'il y en a qui arrivent très bien à en vivre, même depuis des années, avant même l'ère industrielle. Hein. Donc voilà, c'est juste un remplacement. Il y a des métiers qui vont disparaître, ça c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui vont se créer. Je ne sais pas si parce que tous les métiers vont être remplacés par une intelligence artificielle, on doit donner un revenu universel. Je ne pense pas que ce soit le même sujet. Après, voilà, je pense que c'est un autre sujet, mais le revenu universel, on pourrait le rajouter uniquement parce qu'on arrive malgré tout à ne pas vivre dans le monde dans lequel on vit avec le peu d'argent qu'on parfois certains métiers nous offrent. Mais bon.
Mais c'est un autre sujet. L'intelligence artificielle, elle questionne aussi. Du coup, une des personnes intervenantes dans ton documentaire a spécifié que voilà, au départ, c'était la pénibilité du travail la révolution industrielle qui a fait qu'on a rendu le travail moins pénible en l'automatisant avec des machines. Là, on touche, pas que, mais entre autres, à des domaines qui sont plus de l'ordre de la créativité, mm-hmm. donc qui ne sont pas non plus des métiers qu'on peut considérer comme pénibles dans l'échelle du travail. Du coup, ça bouscule aussi un peu cette question quels sont les... Enfin, que l'IA s'immisce dans des domaines qui sont des domaines, on va dire, de...
Passionnants,
voilà, ouais, j'allais dire.
Des métiers passion.
Oui.
Quand on le voit, même dans le journalisme, au final, quand on dit qu'on est journaliste, normalement, on est juste censé écrire et donner les faits, et voilà. Eh ben, même dans le journalisme, ou par exemple en radio, vous le voyez bien, on ne fait pas que écrire, on ne fait pas que réciter quelque chose. Maintenant, on doit savoir mixer, on doit savoir monter, on doit savoir utiliser les micros, les branchements, les machins. Enfin, je pense qu'on doit devenir un couteau suisse, et ça, c'était bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc voilà, je ne sais pas si déjà je réponds à la question, mais
Mais par exemple, dans ton métier, il y a aussi toute une question de relations interpersonnelles, de rapport à l'autre, de sensibilité, qu'on peut pas remplacer par une intelligence artificielle qui va poser des questions à notre place. Enfin, je ne sais pas, je ne crois pas, face à une personne qui vit une situation, je ne sais pas, traumatisante sur un sujet ou quoi. Et il y a une façon aussi de l'aborder, et c'est l'humain qui, par sa sensibilité... je ne sais pas si elle abordera mieux qu'une IA, mais en tout cas, c'est aussi comme une expérience de vie pour une personne journaliste de faire cet exercice-là.
Ouais, bien sûr.
Et que du coup, on ne se permet plus ça, on ne se permettrait plus ça avec une prédominance de l'IA dans nos différents métiers, dont celui de journaliste.
Bah, du coup, je vois.
J'ai juste
oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que. On risque, l'intelligence artificielle risque de faire disparaître des métiers passion. Mmh. Comme pour moi, journaliste, c'est un métier passion, ou rédacteur.
Après, je pense que, ouais, soit ça va en faire disparaître, mais peut-être qu'on aura juste deux branches. Une branche illustrateur via IA et illustrateur manuel, de gens. Donc. Peut-être qu'on ouvre juste des marchés au final, vu qu'on vient dans un monde capitaliste, on ouvre juste des marchés qui sont en lien, et que du coup, la part du gâteau, entre guillemets, va devoir être partagée entre les trucs générés par IA et les trucs générés par les êtres humains. Mais je pense pas qu'on arrivera à des... On pourra jamais faire disparaître la peinture, la musique faite par nous-mêmes. Enfin, je pense pas, hein. Je peux pas prédire des choses qui vont se passer dans 50 ans, mais J'espère pas, en tout cas.
Mais on peut peut-être prédire ce qui va se passer dans quelques semaines, mois, pour toi, du coup, dans ton cursus. Voilà, est-ce qu'il y a l'envie de poursuivre avec cette expérience de documentaire sonore, dans cette voie-là, en journalisme, avec la radio, le son, c'est quoi les envies ou...
Bah, le mémoire, en tout cas, sera lié là-dessus. Je vais faire... ce sera aussi un documentaire sonore. Mais et à côté de ça, on a créé une émission. D'ailleurs, je fais un big up à toute mon équipe. On a créé une émission avec les élèves du master, avec sept d'entre eux, qui s'appelle D'Office et qui se retrouve sur Twitch. Parce que justement, je pense que Internet offre d'énormément de possibilités, autant qu'elle puisse faire des problèmes. Mais du coup, on a monté une émission qui parle d'actualité en plateau un jeudi sur deux. Et voilà, ça s'appelle D'Office, si vous voulez nous écouter. Et pour
ça parle d'astronomie.
Ouais, ça c'est la dernière
émission. Ça parle de rap. Ça parle de l'affaire de Lays, entre autres.
Voilà, on revient sur l'actualité des deux dernières semaines, toutes les deux semaines, pour cette émission en plateau.
D'Office, vous pouvez aller écouter sur Twitch.
C'est gentil.
Et donc, tu voudrais faire de la radio plus tard ?
Alors, c'est moi, c'est un média que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a tout ce côté brut de juste la voix qui ne doit pas être... un peu parasité par l'image. Moi, c'est un mauvais mot de dire parasité, mais voilà, je pense que l'écoute, tu te concentres sur l'écoute sans image et tu te crées tes images par soi-même. Je trouve qu'il y a une poésie dans la radio qui se perd un peu dans la télé, j'en sais rien. Je sais pas. Oui, mais en tout cas, la radio, c'est mon dada.
Eh bien, on va conclure là-dessus, puisqu'il nous reste un petit 4 minutes. On avait envie de passer un morceau de musique. Voilà, quand on a pensé à robot, on a pensé à Kraftwerk et puis le morceau The Robots. Et donc, on va finir avec ça. Et Radio Panique, ça se poursuivra à 20h avec Onde de Choc, l'émission métal de Radio Panique. Merci, Tariq, pour ta venue à Radio Panique et longue vie à toi dans ton cursus, avec ou sans intelligence
merci
artificielle.
À toi.
Oui, merci pour l'invitation. Merci.
We are the robots.